Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Vous le savez, vous l'avez entendu, au moins 50 personnes sont mortes, à peu près autant de blessés dans cette boîte de nuit gay d'Orlando en Floride, sous les tirs d'un homme, Omar Mateen, qui s'était réclamé quelques instants auparavant de Daesh. Est-ce que ce drame révèle une histoire de l'homophobie aux États-Unis, en Occident? Est-ce qu'il témoigne d'une inflexion de cette homophobie du fait de Daesh, ou plus généralement d'une culture de la haine qui se développerait? On va en discuter avec nos invités. Tout d'abord, Serge Hefez. Bonjour Serge Hefez, vous êtes psychanalyste. Vous avez notamment publié La Fabrique de l'Histoire. Louis-Georges Thin, bonjour. Vous êtes fondateur de la Journée mondiale contre l'homophobie. Vous avez notamment dirigé un dictionnaire de l'homophobie aux Presses universitaires de France. Et puis nous sommes également en compagnie de notre camarade Caroline Fourest. Louis-Georges Thin, comment pouvez-vous qualifier cet acte?
Il est vrai que pendant toute la soirée, notre réflexion a évolué. Au début, on pouvait s'imaginer que ce soit un crime homophobe plus violent que d'autres, mais dans la tradition du crime de Matthew Shepard, par exemple, il y a quelques années. On pouvait se demander s'il s'agissait d'une fusillade dans la tradition de Columbine ou Littleton, ou plutôt un attentat dans la tradition, si j'ose dire, du 11 septembre ou de Bataclan. Et c'est peut-être un peu détroit, mais c'est quand même la troisième interprétation qui semble s'imposer désormais. Donc la qualification de l'acte, le mot, donc fusillade, certes, meurtre, oui, bien sûr, mais enfin, attentat, c'est le mot qui paraît le plus adéquat, hélas.
Attentat touchant un lieu de plaisir, c'est-à-dire un lieu qui n'a pas de signification politique a priori, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose, évidemment, qui rapproche cette tuerie dans cette boîte de nuit gay de ce qui s'est produit au Bataclan.
Il y a une journaliste du Sun qui a écrit, c'est « The American Bataclan ». En effet, traditionnellement, si j'ose dire, les terroristes choisissaient des cibles plus clairement politiques, des ambassades, les tours jumelles du 11 septembre, on voit bien sûr le symbole. Là, pour nous, ça ne semble pas très politique, mais ça l'est. Les questions homosexuelles sont très politiques au niveau international. Donc oui, c'est très politique, c'est une autre manière de faire de la politique. Et là, si j'ose dire, ce n'est pas de la politique, c'est du terrorisme. Mais effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement politisé dans le choix de la cible. En l'occurrence, The Pulse, une boîte de nuit homo avec pas mal de défis.
Quelle est la spécificité de cette boîte de nuit?
Alors, la clientèle est en général une clientèle homosexuelle, trans aussi, il y a pas mal de drag queens, plutôt des gens latinos ou noirs. Voilà un peu le public finalement qui a été visé et touché. Et c'est l'idée finalement que tout ce qui est homosexuel, c'est l'Occident, c'est la perversion, c'est la décadence, alors que l'Orient, l'islam serait le lieu d'une pureté morale et sexuelle, gardien de traditions masculines qu'il faudrait sanctifier. Voilà un peu le cadre idéologique dans lequel Daesh et les intégristes, quels qu'ils soient, mais musulmans en l'occurrence, veulent nous inscrire.
Lorsque le Bataclan a été touché, on a essayé d'interpréter ça en disant que le Bataclan avait accueilli une soirée en faveur d'Israël. Bref, on a essayé de donner une interprétation pour essayer de comprendre pourquoi ce lieu avait été choisi. Est-ce qu'il est possible de comprendre pourquoi le Pulse a été choisi, ou bien s'agit-il tout simplement d'une boîte gay?
Oui, je crois que c'est aussi simple que ça, malheureusement. L'explication n'est pas à chercher beaucoup plus loin. Deux mois plus tôt, un imam à Orlando avait expliqué « All gays must die », tous les gays doivent mourir. Donc il y a un discours depuis à peu près 40 ans, qui n'est pas un discours sempiternel de l'islam, qui est un discours depuis 40 ans, qui est pris en fait dans la confrontation entre islam et occident. Et effectivement, c'est quelque chose de réactionnaire dans les deux sens du terme, réactionnaire au sens moral, mais au sens politique. L'Occident nous attaque, nous allons attaquer l'Occident, on nous reproche d'être homophobes, nous allons attaquer les homosexuels.
On va revenir sur la question de l'islam dans quelques instants. Caroline Fourest, un commentaire sur ce qui vient d'être dit et sur l'événement. Plus généralement.
Sur l'hésitation à qualifier la nature de ce crime, on peut comprendre qu'on se pose la question de savoir si c'est un crime de haine ou un crime terroriste du point de vue logistique. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est aussi ça qui distingue les deux, c'est de savoir si c'est un tueur isolé ou si c'est un tueur qui agit en résonance avec une organisation idéologique. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, les gens ont parfois de mal à comprendre et disent « Ah, bah parce que c'est un musulman, on dit que c'est terroriste, et quand c'est un type chrétien ou d'extrême droite, on le dit pas. » Mais si c'est pas en résonance avec une organisation politique qui a donné des consignes et qui a vraiment des projets, c'est normal qu'on, des fois, on considère que c'est plus un crime de haine qu'un crime terroriste. Mais en l'occurrence, on ne peut pas passer de cette interrogation a glissé dans le vocabulaire qu'on en a pu entendre depuis hier sur certains médias, sur le fait est-ce qu'il était homophobe ou terroriste haineux ou terroristes. Mmh. Les terroristes ne sont pas des gens d'amour. Ils ne rejoignent pas une action radicale aussi atroce ou une organisation que Daesh, parce qu'ils sont guidés par l'amour du prochain, et donc il n'y a pas à hésiter entre être homophobe ou terroriste, comme il n'y a pas à hésiter entre être antisémite ou terroriste. Hamidi Coulibaly pouvait être les deux, terroriste et antisémite, et visiblement ce tueur savait très bien être les deux.
L'homophobie occupe une place importante dans les discours de Daesh, Caroline Fourest.
Oui, dans tous les groupes religieux radicaux fanatiques. Alors pour le coup, c'est la base, sauf que chez les islamistes, c'est presque autant la base, peut-être un peu moins que l'antisémitisme, mais quasiment à égalité. Et il y avait eu des discours de prédicateurs il n'y a encore pas si longtemps. On savait d'ailleurs, on savait même à Paris, on a redouté à Paris, dans les environs du 13 novembre, que des lieux gays soient visés. C'est une crainte qui a couru, y compris dans les services de renseignement. Donc on savait très bien que ça faisait partie des cibles potentielles. Et je le dis pas pour le banaliser, par contre, aux États-Unis, ce qui est vrai, c'est que contrairement à la France, le degré d'incitation à la haine contre les homosexuels est à peu près autant partagé par toutes les religions, mais particulièrement par les chrétiens intégristes. Il faut bien avouer qu'aux États-Unis, normalement, ceux qui ont un peu le magistère en termes d'homophobie, ce sont des groupes chrétiens radicaux dont on ne peut même pas imaginer le degré de haine depuis la France. Je pense au révérend Phelps qui va perturber des enterrements de soldats avec toute sa famille, avec des pancartes « Dieu et les pédales ». Et aux États-Unis, il y a des groupes chrétiens radicaux qui appellent à tuer les homosexuels, hein, pas simplement à les discriminer, à les tuer physiquement. Donc, encore une fois, c'est normal qu'on se pose la question de savoir si c'est une fusillade comme une autre, si c'est un fou américain comme il en existe. Mais là, en l'occurrence, il y a un faisceau d'indices qui prouve que, en plus, vu les consignes que donne Daesh, c'est pas si étonnant que ça finisse par tomber sur un barguet.
Serge Effes, je vous ai invité à venir ce matin, car l'homophobie pose question, évidemment, au psychanalyste que vous êtes. Comment réussir à expliquer cette haine dirigée contre les homosexuels? Quels en sont les ressorts, selon vous?
Mais c'est-à-dire, autant la haine contre les juifs ou la haine contre les noirs consiste à rejeter l'autre en ce qu'il est différent et en naturalisant le plus possible ses différences, autant je crois que l'homophobie est plus pernicieuse parce qu'il s'agit aussi de rejeter l'autre en soi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les petits garçons et les petites filles sont amenés à grandir avec l'idée d'un ordre naturel du monde où le masculin et le féminin seraient là et expliqueraient finalement cet ordonnancement du monde, naîtrait de la rencontre de l'homme et de la femme. Tout ça est très très bien ordonné. Mais les petits garçons et les petites filles sont agités par des questions beaucoup plus complexes, justement. C'est comment est-ce qu'on devient un petit garçon? Comment est-ce qu'on devient une petite fille? La sexualité, tout ça est très ouvert dans leur esprit. Ils sont, comme le disait Freud, pervers polymorphes, ou ils sont agités par la bisexualité psychique. Et lorsqu'on se construit comme garçon et comme fille, on se construit plutôt par amputation. C'est-à-dire que on héberge un petit peu toutes les possibilités à l'intérieur de soi et on forge les garçons à devenir des petits garçons, c'est-à-dire à être virils, à être combatifs, à être dominants, et on forge les petites filles à devenir plus douce, plus docile, et à se soumettre à un certain ordre patriarcal et à un ordre masculin. L'ordonnancement du monde, il est dans cette façon dont les petits enfants sont conduits à repérer et envisager la différence des sexes. Or, l'homosexualité vient bousculer pas seulement la question de la sexualité, mais la question du genre. Qu'est-ce que c'est qu'être un garçon? Qu'est-ce que c'est qu'être une fille dans la société d'aujourd'hui? Ce que défendent les homophobes, ce qui provoque la haine homophobe, c'est de bousculer cette question du genre. C'est-à-dire que cet ordre patriarcal, cet ordre de la domination masculine, eh bien, il ne soit pas là, il ne soit pas tout puissant, et que l'on ne s'y soumette pas, que les petites filles ne se soumettent pas au fait d'être des individus dociles qui appartiennent aux hommes, et que les hommes ne se soumettent pas à cet ordre de la virilité combatif qui va leur permettre de défendre la nation, qui va leur permettre de protéger les femmes et les enfants. L'homophobie, elle vient toucher un peu ces peurs-là qui sont des peurs ancestrales, qui sont des peurs extrêmement archaïques. Si les hommes ne sont plus des hommes, si les hommes ne se réunissent plus entre eux au nom de la virilité, qui va défendre la nation contre l'envahisseur? Qui va nous protéger? Et ce qui fait que les hommes, comme les femmes, sont touchés par ces questions de l'homophobie, parce qu'ils sont ensemble envahis par ces peurs ancestrales.
Alors il y a donc l'explication psychanalytique, anthropologique en quelque sorte, qui essaye de trouver des causes immémoriales à ce sentiment, à cette pulsion homophobe. Et puis, il y a aussi une dimension sociologique. Louis Georgetin, lorsqu'on ouvre votre dictionnaire de l'homophobie, on trouve une entrée islam. Quel est le lien, selon vous, entre l'islam et l'homophobie, sans essentialiser, évidemment, la culture musulmane? Que peut-on dire?
Il y a une entrée islam, comme il y a une entrée catholicisme ou protestantisme. Caroline Fourest a raison de mentionner l'importance des intégristes chrétiens. Et d'ailleurs, le même jour, on a arrêté à Santa Monica, pas loin de Los Angeles, un jeune homme blanc qui s'apprêtait à faire un attentat contre la Gay Pride de Los Angeles. Donc c'est intéressant de montrer la coïncidence, la convergence des faits. Caroline Fourest avait écrit un livre « Tirs croisés ». Eh bien, on est en plein. Pour revenir à l'islam, au fond, l'islam se réfère à une tradition qui est celle des trois religions du livre. C'est-à-dire l'Ancien Testament, grosso modo, vous savez que c'est le corpus commun, et au fond, tout tourne autour du concept de liwat, c'est-à-dire, non pas l'homosexualité, mais ce qu'on parfois en traduit par homosexualité, ce que font les gens du peuple de Lot, l'épisode de Sodome et Gomorre. Bon. Et après, vous avez quantité d'interprétations, de codes juridiques qui en tirent des conclusions diverses. C'est quand même un espace qui va du Maroc à l'Indonésie, sur près de 8 siècles, donc, enfin, plus de 12 siècles, pardon. Donc, voyez, on ne peut pas faire une démonstration générale. En revanche, ce qui est clair, c'est l'intégrisme de certains groupes musulmans, comme il en existe chez des chrétiens ou d'autres, qui effectivement utilisent un certain nombre de prescriptions religieuses qu'on aurait pu penser caduques pour organiser un ordre social qui est le leur. Et donc, ce qui est pertinent, ce n'est pas tellement finalement la religion à laquelle on se réfère, mais plutôt la volonté d'organiser la société selon des critères démocratiques ou théocratiques. Au fond, voilà le problème. Dans la plupart des sociétés, qu'elles soient musulmanes ou pas, est-ce que l'ordre vient de la Bible, du Coran, de la Torah, pourquoi pas, ou est-ce qu'il vient d'une volonté commune qu'on appelle démocratie? Et voilà pourquoi il y a une spécificité, non pas de l'islam, mais de l'intégrisme musulman, qui évidemment se réfère à une tradition théocratique qu'il essaye d'imposer, lorsque les démocraties occidentales, elles, sont elles-mêmes, non pas sans reproche, mais effectivement souvent coupables elles-mêmes d'attaques, d'impérialisme. Donc voilà un peu le cadre géopolitique dans lequel on se situe.
Caroline Fourest, il faut rappeler qu'il y a un sénateur texan qui, à la suite de cette fusillade, a tweeté le fait qu'on ne pouvait pas se moquer de Dieu. C'est-à-dire que cette question du religieux, elle n'est pas que dans les sociétés intégristes, elle est dans des sociétés aussi démocratiques que l'Amérique, lorsque l'on se réfère au nom de Dieu pour naturaliser, justement, la question des sexualités et la question du genre.
Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, Caroline Fourest.
Oui, le tronc commun des homophobies religieuses, c'est évidemment la référence à l'épisode de Sodome et Gomorre, qui peut être interprété par des croyants libéraux comme étant au contraire une punition divine parce que les envoyés de l'Éternel ont forcé une porte et donc ont essayé de violer quelqu'un, et puis que les intégristes vont interpréter comme un châtiment uniquement lié à des pratiques homosexuelles, alors qu'on savait que d'ailleurs à l'époque Sodome et Gomorre, tout converge vers le fait que visiblement tout le monde visitait tout le monde de façon très libre, sans frontières sexuelles.
Oui, parce qu'il faut savoir que c'est un chapitre qui est interprété, évidemment, comme vous l'avez dit, Caroline Fourest, de manière extrêmement diverse. L'une des interprétations étant également que cette ville a été frappée par Dieu tout simplement parce qu'elle a refusé de donner asile à l'étranger.
Aux envoyés, en l'occurrence, de l'Éternel. Mais il y a quelque chose en plus dans l'islam politique radical qui est effectivement cette association homosexualité-Occident qui vient surpolitiser ce fond ancien et commun au monothéisme de haine des homosexuels. Alors évidemment, avec toute l'hypocrisie que cela comporte, parce que les islamistes passent leur temps à expliquer qu'en gros, il n'y a pas d'homosexuels dans les sociétés musulmanes, mais ils les pendent quand même, donc c'est bien qu'ils en trouvent. Et évidemment, on sait que sous Daesh, ça va jusqu'à jeter des homosexuels des murs, mais c'est aussi ce que pratique le Hamas dans les territoires qu'il contrôle. Il n'y a pas que Daesh qui peut le faire. Et donc, c'est surpolitisé dans cette association Occident. Je rappellerai juste que dans les victimes, visiblement, de cette boîte de nuit gay, il y avait un jeune gay qui s'appelait Omar.
Homosexuel masculin ou féminin, est-ce que les deux types d'homosexualité sont punis de la même façon?
Non, la haine n'est pas exactement la même pour une raison simple. Il faut savoir que quand on parle d'homophobie religieuse, on parle de sacralisation en fait du patriarcat à des degrés d'hystérie très, très poussés. Donc dans le patriarcat le sacralisé, l'homosexuel garçon trahit la classe du dominant et souvent les homophobes ont un petit problème avec leur propre sexualité, ils ont quelque chose à s'ils étaient apaisés, ils n'en seraient pas là. Et les femmes, c'est autre chose, elles trahissent le fait de ne pas être soumises. Et donc, leur sexualité est généralement plus invisibilisée parce que la sexualité des femmes, dans l'ordre patriarcal, est en général plus invisibilisée.
Un rapide commentaire,
oui,
Serge
Effes. D'ailleurs, c'est comme si elle n'existait pas. Encore une fois, l'abomination du pécheur, c'est la féminisation des hommes, au-delà de toute pratique sexuelle.
Et pas la masculinisation des femmes.
La masculinisation est un petit peu plus dangereuse, mais elle bouscule moins.
Sur les genres, c'est équivalent.
Oui, mais elle bouscule moins. Elle provoque moins de haine. Elle provoque moins de haine meurtrière chez les hommes qui ont passé une partie de leur vie à chasser le féminin en eux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont passé une partie de leur vie à s'aguerrir pour justement pouvoir se débarrasser du féminin. Donc ce retour du féminin chez l'autre vient soulever quelque chose d'insupportable en eux.
On vous retrouve aux environs de 8h20 pour continuer à évoquer la tuerie d'Orlando. Je rappelle votre dictionnaire de l'homophobie, Louis Georgetin, aux Presses universitaires de France, et la fabrique de la famille. Serge Effes, 7h56 sur France Culture.